RFI 14h30 ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Afrique Midi, c'est avec Paul Longsin-Spinelli.
Et nous allons largement revenir durant cette demi-heure sur la situation au Soudan, embourbé dans 2 ans de guerre civile. Il y a 2 ans, jour pour jour, les combats commençaient entre d'un côté les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti et de l'autre l'armée soudanaise du général Al-Burhan. Selon l'ONU, 13 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. Aux violences quotidiennes s'ajoute aussi la famine. Nous allons faire un point dès le début de ce journal sur la situation à El Fasher, point chaud du conflit. La capitale du Darfour du Nord est encerclée par les FSR. En pleine crise diplomatique avec l'Algérie, la France réaffirme son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. C'est ce qu'a confirmé hier le chef de la diplomatie française qui rencontrait son homologue marocain. Et puis un photographe congolais parmi les lauréats d'un prestigieux prix international de photographie pour son travail sur la pollution du lac Kivu. Au Soudan, El Fasher, ville à bout de souffle et épicentre d'un conflit qui dure depuis 2 ans jour pour jour. Depuis plusieurs jours maintenant, des forces et milices alliées à l'armée soudanaise affluent vers la capitale du Darfour du Nord, encerclée par les forces de soutien rapide. La ville résiste toujours aux paramilitaires qui ont d'ailleurs intensifié leurs frappes depuis maintenant un mois. Ces bombardements, ils visent aussi les villages et les camps de déplacés alentour. La population qui vivait au camp de Zamzam a d'ailleurs fui ces derniers jours, en partie vers El Fasher, Ouda Ibrahim.
Selon des témoins, des centaines de personnes dorment dans les rues d'El Fasher et affrontent dans la journée des températures qui atteignent 40 degrés, en plus des difficultés à trouver de l'eau et de la nourriture. Ces gens-là ont bien sûr fui le camp de Zamzam et les violences qui ont eu lieu ces derniers jours. Le chargé de l'aide humanitaire au Soudan indique que 70 000 familles de Zamzam se sont réfugiées dans El Fasher suite aux attaques des FSR, il serait 60 000 selon l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Toujours concernant le nombre de déplacés de Zamzam, la coordination des réfugiés et des déplacés des camps du Darfour affirme que 187 000 personnes ont fui El Fasher et ses environs durant les 11 derniers jours. Quant au bilan des victimes civiles, il s'élève à 400 selon l'ONU. Il est estimé à 1 000 par des ONG humanitaires présentes au Darfour. La direction du camp de Zamzam précise que des centaines de personnes sont portées disparues ayant été enlevées par les FSR. Selon un communiqué de la direction de Zamzam, des cas de viol de femmes et de jeunes filles ont eu lieu parfois devant des proches de la victime. De jeunes hommes qui refusaient de quitter le camp ont été égorgés et filmés afin de répandre la terreur chez les autres habitants pour qu'il quitte le camp, indique encore ce communiqué.
Merci Ouda Ibrahim. Et s'est déplacé donc au Soudan. Ils n'ont d'autre choix parfois que de franchir les frontières du pays pour se protéger. Plusieurs centaines de milliers ont notamment fui vers le Tchad. Bonjour Victor Moria.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Correspondant d'RFI au Tchad, vous vous trouvez actuellement à Adré. C'est à la frontière avec le Soudan. Victor, c'est ici que plus de 500 000 Soudanais ont trouvé refuge et les arrivées se poursuivent quotidiennement ici.
Oui, environ une centaine de personnes traversent le poste frontière d'Adré chaque jour, selon le HCR, le commissariat de l'ONU pour les réfugiés. C'est bien moins qu'au pic de la crise, hein, en juillet 2023 jusqu'en juillet 2024, où 1 000 à 2 000 personnes faisaient le trajet quotidiennement. Mais Adré n'est que l'un des 32 points de passage entre le Soudan et le Tchad, et les points de passage identifiés par l'OIM. La violence des combats au Darfour, mais aussi celle des forces de soutien rapide qui contrôlent désormais la majeure partie de la province soudanaise, continue de pousser les gens au départ. C'est ce que racontent les réfugiés arrivés ces derniers jours. La faim, la soif, le danger permanent, les témoignages sont unanimes. Et par ailleurs, vous l'avez dit à l'instant, à El Fasher, la dernière ville du Darfour encore contrôlée par l'armée, et aussi dans les camps aux alentours, notamment celui de Zamzam, les combats de ces derniers jours font craindre aux humanitaires présents ici une nouvelle vague d'arrivées au Tchad dans les prochaines semaines. Une situation qui inquiète donc les organisations internationales dans une période d'incertitude budgétaire due au gel des financements humanitaires humanitaire américain. Et juste avant la saison des pluies, au mois de juin, la crise humanitaire ne faiblit pas.
Victor Moria, merci, envoyé spécial d'RFI à Adré. Ouda Ibrahim, on vous retrouve dans ce conflit au Soudan. Toutes les tentatives de médiation, elles ont échoué. Le Soudan du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie ou encore la Turquie ont tous proposé leur aide, ont organisé des sommets même, mais ces initiatives ont donc été vaines, Ouda.
Il faut préciser que ces médiations, trop souvent parallèles et non coordonnées, reflètent également le jeu d'influences régionaux à l'œuvre dans ce conflit. Durant les premiers mois de la guerre, les sommets se sont enchaînés dans les pays voisins, les pays africains et arabes, pour trouver une solution sans qu'aucun cessez-le-feu n'aboutisse. À part l'inquiétude annoncée face à la détérioration de la situation humanitaire et les appels à un cessez-le-feu, ainsi que les appels à mettre fin aux ingérences lors de ces sommets, ils ont échoué à ébaucher sur une solution du conflit. La semaine dernière, l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont renouvelé leur appel pour un retour à la table des discussions. Les deux généraux qui s'opposent ont complètement ignoré cet appel. Aujourd'hui encore, les deux belligérants ne renoncent pas à l'idée d'une victoire totale sur leur adversaire. Les deux généraux croient dur comme fer qu'ils vont mettre fin à la guerre en réalisant une victoire totale sur le terrain. Ils restent sourds aux appels de la communauté internationale qui n'a de cesse de répéter que la solution au conflit au Soudan ne sera que politique. Aucun signe ne laisse croire à un retour à la table des discussions dans un avenir proche.
Merci beaucoup, Ouda Ibrahim, pour vos explications. Au Sénégal à présent, l'ex-président Macky Sall sous la menace de poursuites pour haute trahison. C'est en tout cas l'objet d'une proposition de résolution qui vient d'être déposée à l'Assemblée nationale. Allez, Alisa Westerhoff.
Guy Marius Sagna, c'est le nom du député en question. Il a introduit cette proposition de mise en accusation de l'ancien président en se basant sur le rapport de la Cour des comptes qui a révélé des chiffres falsifiés de la dette publique, une dette cachée de 7 milliards de dollars sous l'administration Macky Sall. L'argument de ce député est de dire que les dettes contractées en dehors de tout circuit légal, cette gestion opaque avec des manipulations comptables, peuvent, au regard de leur ampleur, être qualifiées de haute trahison. Pourquoi la haute trahison? Car c'est le seul chef d'inculpation qui peut viser un ancien président au Sénégal selon la Constitution. Alors ensuite, cette mise en accusation est adoptée par le Parlement que si la majorité des 3/5 des membres de l'Assemblée nationale vote pour, c'est-à-dire 90 députés sur 165 au minimum. Mais le PASTEF, le parti au pouvoir ayant 130 sièges au Parlement, ce vote, quand il sera programmé, risque d'être une simple formalité. C'est la prochaine étape désormais, Paul, savoir quand une plénière sera programmée pour se prononcer sur cette mise en accusation de Macky Sall.
Merci Léa Alisa Westerhoff en direct de Dakar pour RFI. Toujours pas de nouvelles en Guinée-Bissau de Boubacar Touré. Le président de la Ligue nationale des droits de l'homme est en effet porté disparu depuis samedi. La Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, demande aux autorités compétentes de donner rapidement des informations sur l'état physique et psychologique de Boubacar Touré. Le bref apaisement entre la France et l'Algérie semble déjà être parti en fumée, alors que l'Algérie a demandé hier à 12 agents du ministère français de l'Intérieur de quitter le territoire algérien sous 48 heures à la suite de l'arrestation de 3 personnes, dont un employé d'un consulat algérien en France. Le ministre français des Affaires étrangères a répété hier soir, cette fois, son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. C'était lors d'une rencontre avec son homologue marocain Nasser Bourita. Ce sujet, c'était celui qui avait mis le feu aux poudres entre Paris et Alger. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
La diplomatie française persiste. Aujourd'hui, la position exprimée par Emmanuel Macron, le président français en juillet dernier, est intangible.
Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce sont les mots du communiqué publié par le Quai d'Orsay ce matin. La ligne française est claire et elle demeure inchangée. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Une position à l'opposé de celle de l'Algérie qui soutient au contraire les indépendantistes du Front Polisario. La diplomatie française affirme que son positionnement s'inscrit dans le cadre d'un consensus international de plus en plus large, je cite, « seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résultats du Conseil de aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ». Le changement de position de la France sur cette question depuis un an profite aussi aux entreprises françaises bien décidées à conquérir de nouveaux marchés et intéressées par les ressources du Sahara occidental, phosphate, pêche ou énergie renouvelable. Ainsi, le ministre français réitère dans ce communiqué l'engagement de la France à accompagner les importants efforts du Maroc en faveur du développement économique et social de ces régions au bénéfice des populations locales.
Merci Lisa Fabian. Un départ hors de Guinée après la grâce présidentielle. Le capitaine Moussa Dadis Camara avait en effet été gracié fin mars par le chef de la junte en Guinée, Mamadi Doumbouya, et ce pour raison de santé, alors qu'il avait été pourtant condamné à 20 ans de prison pour son rôle de commandement dans les massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Selon son entourage, l'ancien dirigeant guinéen de 2008 à 2009 a quitté son pays, direction le Maroc, dans la nuit de dimanche à lundi, Mouktar Ba.
En l'absence de toute annonce officielle, un proche collaborateur du capitaine Moussa Dadis Camara a confirmé à RFI son départ de Guinée. Oui, je peux vous confirmer que le capitaine Dadis a bel et bien quitté Conakry dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin pour le Maroc, a indiqué cette source. Le Maroc, un pays que Moussa Dadis connaît déjà puisqu'il y avait effectué un séjour médical au lendemain de la tentative d'assassinat le visant de la part de son ex-aide de camp Toumba Diakité. Et cette fois encore, il y va en partie pour les mêmes raisons, après plus de 2 ans passés à la prison civile de Conakry. Une détention qui a impacté son état de santé, selon son entourage. Il ne sera pas dépaysé et il va effectuer calmement des examens médicaux, a ajouté notre source. La libération du capitaine Dadis Camara avait suscité incompréhension et questionnement chez les organisations des droits humains, les parties civiles et les victimes dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Est-ce que Dadis Camara s'est volontairement mis au vert ou est-ce qu'il a été simplement éloigné par les autorités, reviendra-t-il en Guinée? Autant de questions sans réponse. Mokhtar Ba, Conakry, RFI.
C'est sa série d'images pour documenter la pollution du lac Kivu qui a retenu l'attention du jury. Le photographe congolais Aubin Moukoni fait partie des lauréats du prestigieux prix photo World Press Photo 2025. Son projet, intitulé « The Lake Has Fallen Silent », montre un site qui est à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, témoin de l'instabilité de cette région, Patient Ligodi.
C'est en 2020 qu'Aubin Moukoni a commencé à documenter ce qu'il appelle le silence du lac. Originaire de Goma, il sillonne les rives du lac Kivu, appareil de photos en main pour raconter les liens invisibles mais puissants qui unissent l'eau et ceux qui en vivent. Dans ces images, on aperçoit des scènes de pêche, des familles réunies au bord du lac, des étals de poissons au marché. Il explique par exemple que le commerce du poisson, en particulier les sambaza, petits poissons très prisés à Goma et au cœur de l'économie locale, mais aujourd'hui ces espèces se raréfient, dit-il. Le photographe tire la sonnette d'alarme. Goma, ville de plus d'un million d'habitants, déverse chaque jour des tonnes de déchets dans le lac. Il évoque aussi la pression démographique croissante avec le mouvement des réfugiés et des déplacés. Derrière ces clichés, il y a un message, dit-il, celui de la responsabilité collective. Il appelle à une meilleure gestion des déchets, à une conscience partagée pour préserver ce qu'il considère comme un joyau. À 25 ans, Aubin Moukoni revendique un héritage, celui de son grand-père, lui aussi photographe. Il s'est défini comme un agent de plaidoyer par l'image. Il veut susciter des discussions, provoquer des prises de conscience, ouvrir des débats dans sa communauté. Le prix qu'il vient de recevoir pour son projet, le lac est devenu silencieux au World Press Photo 2025, il le considère comme un début, une première étape. Pour lui, ce travail n'est que le premier chapitre d'un engagement à long terme.
Un patient Ligodi, merci à vous. Le grand cérémonial du ballon orange la nuit dernière à New York, c'est là où se déroulait la draft de la NBA féminine. Cette grande mise en scène durant laquelle les clubs recrutent les meilleurs jeunes espoirs. Et parmi ces pépites, il y avait notamment Dominique Malonga, la native de Yaoundé et vice-championne olympique avec l'équipe de France de basket l'été dernier, a été draftée, choisie en deuxième position. C'est l'équipe des Seattle Storm qui a sélectionné la joueuse de 19 ans, la franco-camerounaise, très émue après l'annonce.
Vraiment, ce qui s'est passé ce soir, c'est historique et j'en suis vraiment contente. Et donc, je tiens à remercier tout particulièrement toutes les académies qui m'ont formée dans mes premiers pas au Cameroun, en particulier la Pépinière Basketball, où j'ai vraiment appris les fondamentaux et vraiment fait mes premiers pas dans ce sport. Je remercie tout le monde qui me montre son soutien depuis tellement longtemps. Tous les messages que je reçois en provenance du Cameroun, je les reçois tous dès que je peux dans mon planning. Je n'hésiterai pas à venir pour rendre tout l'amour que vous m'avez donné.
Réaction recueillie par Joël Ouadem. Et puis, c'est le money time de la saison masculine de NBA. Les playoffs, phase finale de la Ligue, démarrent samedi. Mais avant cela, il reste deux tickets à décrocher dans chaque conférence, deux à l'Est et deux à l'Ouest. Pour ça, un mini tournoi à élimination directe est organisé. Ce sont les play-in. Parmi les franchises engagées, les Atlanta Hawks qui jouent Orlando lors du premier match. Les Hawks qui comptent beaucoup sur leur ailier sénégalais Mogay, en pleine forme depuis plusieurs semaines, Théo Quintard.
Chez les Hawks, un faucon nommé Mohamed Gay est en train de prendre son envol. Blessé au dos l'an dernier, le Sénégalais de 22 ans vit sa première vraie saison en NBA. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Quinn Snyder.
Il a une façon bien à lui d'impacter le jeu. Ce qui ressort avec Mo, c'est sa longueur, sa taille. Je suis plus que satisfait par sa progression.
Choisi en 39e position lors de la draft de 2023, le natif de Dakar a commencé la saison avec l'équipe réserve, mais tout s'est accéléré depuis quelques semaines. Profitant de l'absence de plusieurs joueurs blessés, Mohamed Gay a saisi sa chance. Il a intégré la rotation de l'équipe première, un rôle qu'il prend très à cœur.
Je me décris comme étant un joueur qui fait les travails de l'ombre. C'est tout ce que le coach a besoin, je le fais. Je suis l'ombre de l'ombre, comme on dit.
Parti à 16 ans du Sénégal, Mogay aimerait représenter son pays lors des prochaines compétitions internationales. Agent libre cet été, il devra régler sa situation contractuelle à Atlanta ou ailleurs avant d'éventuellement disputer l'Afrobasket en août prochain en Angola.
Ça représente tout en fait. C'est pourquoi on est là. C'est pour inspirer la génération qui va venir et remporter des coupes pour notre pays.
Une Coupe d'Afrique des Nations version basket que le Sénégal n'a pu gagner depuis 1997. Théo Quintard, Atlanta, RFI.
La polyvalence de sa plume était saluée autant pour sa poésie que pour le théâtre. Nous vous en parlions hier sur RFI. José Plia est décédé samedi alors qu'il était en déplacement à Miami aux États-Unis. Le Béninois avait 58 ans. Ce dramaturge, il était dernièrement chargé de mission aux arts et à la culture auprès du président Talon. Mais avant cela, son œuvre théâtrale avait été saluée à l'international, notamment en 2003 par l'Académie française pour le complexe de Thénardier. Sylvie Chalet est professeure à l'Université Sorbonne Nouvelle, co-directrice de l'Institut de Recherche en Études Théâtrales et spécialiste des dramaturgies contemporaines d'Afrique. Elle connaissait bien sa carrière, écoutez.
Son théâtre est un théâtre qui joue toujours sur des enjeux très mystérieux, des effets de disparition, de perte. Le complexe de Thénardier va vraiment lancer en fait sa carrière de dramaturge. Il se trouve que Catherine Yégel lit la pièce, elle adorait ce texte, et du coup, elle va faire une lecture au musée Calvet, c'était avec Sylvie Testu. Ça a été un moment extraordinaire. Ensuite, Jean-Michel Ribe a été intéressé par ce texte, et il l'a mis en scène au Théâtre du Rond-Point, et ça a déclenché pas mal de choses. Je dirais que José avait deux facettes. Il était un auteur, un écrivain, et d'un autre côté, il s'est toujours beaucoup intéressé aux politiques culturelles, à la façon de faire exister la création. Et du coup, c'était un peu une apothéose, entre guillemets, de pouvoir impulser une politique des arts et de la culture dans son pays d'origine, avec le compagnonnage auprès de Patrice Talon.
Sylvie Chalet, jointe par Pierre Firsion, RFI, 14h48, à Paris. Les principaux titres de l'actualité avec Clotilde Dumais.
Le calvaire des civils dans la bande de Gaza doit prendre fin. Voilà ce que dit le président français au premier ministre israélien. Dans un message sur le réseau social X, Emmanuel Macron assure avoir plaidé auprès de Benjamin Netanyahou pour la réouverture d'une perspective de solution politique à deux États. Ce serait une énorme récompense pour le terrorisme, répondent les services du chef du gouvernement israélien. L'État hébreu qui annonce par ailleurs au Liban à l'instant avoir éliminé un chef du Hezbollah dans le sud du pays. Plus de 800 millions d'euros d'aide humanitaire mobilisés pour le Soudan, résultat d'une conférence internationale organisée à Londres, 2 ans jour pour jour après le début de la guerre. Vous pouvez retrouver toute une série d'articles sur ce sujet sur notre site internet rfi.fr. Et puis du football européen ce soir, quart de finale retour de Ligue des Champions. Barcelone doit confirmer sa qualification en demi face à Dortmund. Même chose pour le Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Coup d'envoi à 19h, temps universel. Match à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Cela fait donc 2 ans jour pour jour que la population soudanaise vit un enfer. La guerre civile entre d'un côté l'armée soudanaise et de l'autre les paramilitaires des forces de soutien rapide qui commençaient donc cette guerre le 15 avril 2023. Depuis, les massacres de civils, les viols sont devenus récurrents et à ces exactions s'ajoute la famine. Pour parler de ce marasme humanitaire, votre invité, Paul Lonsin-Spinelli, c'est le docteur Sékou Kondé, chef de mission pour l'ONG Alima.
Bonjour docteur Sékou Kondé.
Bonjour Paul.
Après 2 ans de guerre, quels chiffres retiennent le plus votre attention pour décrire la catastrophe humanitaire qui est en cours au Soudan ?
Actuellement, nous estimons à plus de 30 400 000 personnes qui sont dans le besoin d'assistance humanitaire. Ce que je peux ajouter sur ça, il y a environ, dans ce grand chiffre-là, 16 millions d'enfants. Et puis, cette crise a entraîné le déplacement de près de 12 à 13 millions de personnes, dont 3 millions en dehors du pays et le reste à l'intérieur du pays.
Vous parliez de la situation des enfants, les enfants, mais aussi les femmes. Est-ce que vous considérez que ce sont les principales victimes de cette crise au Soudan ?
Oui, quand vous voyez ces déplacements, les premières personnes qu'on voit dans les enregistrements et autres, c'est, la plupart, c'est des femmes et des enfants. Et donc, c'est eux qui subissent les conséquences de ces déplacements-là et de ces mouvements.
Selon vous, où la situation humanitaire est la plus urgente dans le pays et quel est votre principal terrain d'action au Soudan ?
Au début de la crise, la plupart des régions étaient considérées comme étant des zones chaudes. Mais au jour d'aujourd'hui, les régions les plus urgentes sont par exemple le nord Darfour où les combats continuent et où il y a un déplacement massif des populations. Et je peux ajouter à cela l'État provincial d'Al-Jazeera qui a été récupéré en mars dernier par l'armée régulière et où la population commence à retourner et où effectivement la plupart des infrastructures de base, que ce soit la santé, l'éducation, l'eau, ont été détruites. J'ajoute aussi la zone de Khartoum où la situation est très catastrophique. Khartoum qui a été récupéré tout récemment, où la population commence à retourner timidement et où vraiment les infrastructures de base qui ont été détruites aussi. Et la dernière région qui n'est pas des moindres, c'est le sud cordophone qui est resté coupé de toute forme d'aide parce que les routes qui mènent vers cet état sont bloqué entièrement, donc il n'y a pas moyen de faire acheminer l'aide et du coup, ce qui contribue à aggraver la situation sanitaire et alimentaire de la population vivant dans cet état-là.
Vous avez mentionné le Darfour du Nord, notamment la ville d'El Fasher, qui compte au moins 1 million d'habitants, elle est encerclée par les forces de soutien rapide. Est-ce que vous êtes encore présent sur place ? Est-ce que votre organisation est encore présente sur place ? Et que savez-vous de la situation à El Fasher ?
La situation est vraiment très chaotique dans la ville de El Fasher parce que les combats se font non seulement autour, mais aussi sporadiquement à l'intérieur de la ville, avec beaucoup de risques d'être pris dans les tirs croisés. Nous avons rehaussé un tout petit peu le niveau de la sécurité et de la protection pour nos staffs pour assurer qu'on continue à offrir les soins, mais aussi à minimiser les risques d'être pris dans ces tirs croisés-là.
Les parties au conflit, justement, est-ce qu'elles entravent parfois votre action et est-ce que vos installations ou votre personnel sont directement visés parfois ?
Personnel visé parfois directement, non, mais nos installations ont fait l'objet de plusieurs attaques. Ce que nous avons subi à Al-Fasher est terrible. Depuis que nous sommes là, nous avons bougé plus de 6 fois de structure en structure parce que ces structures ont fait l'objet d'attaques et de bombardements. Et donc, on a été obligé de quitter d'un point A à un point B, d'un point B à un point C et plusieurs fois jusqu'à là où nous sommes. Il y avait une volonté, d'attaque systématique sur les structures de Al-Fasher.
Un autre défi à El Fasher en ce moment, depuis ce week-end, c'est d'accueillir les déplacés qui viennent du camp de Zamzam, qui s'est littéralement vidé de ses occupants. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont fui. Comment est-ce que vous gérez l'afflux de ces déplacés à El Fasher ?
Nous avons réactivé notre équipe médicale mobile pour commencer à offrir les soins aux afflux qui arrivent sur le site de Al-Salam, où les populations sont amassées dans une école là-bas.
Pour terminer, est-ce que selon vous, l'action de l'ONU et de la communauté internationale sont à la hauteur ?
Ce que je peux dire à ce niveau, je commence par d'abord remercier tous les bailleurs, tous les contributeurs et toutes les agences des Nations Unies pour leur effort de financement déjà acquis sur le terrain. Mais comme je vous ai dit, vu les besoins croissants dans le cadre de cette crise en cours, et nous attendons et nous demandons plus d'engagement financier pour couvrir les caps immenses qui restent encore. Et pour rappel, vous voyez, sur l'année 2025, on avait demandé 4 milliards 200, mais il n'y a que 10% qui ont été obtenus, donc 400 millions 200 000. Donc la question pour nous est plutôt de reconnaître ce qu'ils ont déjà apporté et faire une demande plus d'engagement pour financer, pour continuer à financer rapidement cette crise, parce que vraiment les besoins sont pressants sur le terrain et la rapidité dans l'action, la proactivité sont les bienvenus.
Merci docteur Sékou Kondé. Entretien à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Parmi ces Soudanais plongés dans l'insécurité la plus totale depuis 2 ans, 13 millions n'ont pas eu d'autre choix que de fuir. 4 millions ont d'ailleurs trouvé refuge dans des pays voisins comme le Tchad donc, ou le Soudan du Sud. Certains ont même poursuivi leur route jusqu'au Kenya qui ne partage pas de frontières avec le Soudan. Reportage de Gaël Lalex.
Dans le quartier de Kilimani, le Raïta est devenu le rendez-vous de la jeunesse soudanaise. Dans ce petit restaurant pas de manière, on y mange comme à la maison. Ahmed Al-Badawi, son fondateur.
Nos clients sont des Soudanais, des Somaliens et des Éthiopiens.
Votre restaurant, c'est une sorte de refuge alors ?
Oui, quelque chose comme ça, mais on n'aime pas les appeler des réfugiés.
Quand on a fui la guerre, c'est important de reconstruire quelque chose.
Bien sûr, notre vie est finie au Soudan avec cette guerre. Il faut tout recommencer pour survivre.
Est-ce qu'après la guerre, vous seriez prêt à être gouverné par un des deux généraux ?
Non. Pendant la révolution, on disait... À chaque fois, nous referons la révolution si le gouvernement n'est pas bon pour nous.
Les généraux Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l'armée soudanaise, et Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, chef des forces de soutien rapide, se mènent une guerre sans pitié depuis 2 ans. Mabio Swaleh, 24 ans, a fui Khartoum dès les premiers bombardements.
J'ai laissé derrière moi mon père, mes petits frères, même ma mère. Je ne sais pas comment ils vont, s'ils sont en sécurité. La vie au Soudan est très dure. Il n'y a pas de travail, pas de sécurité. On entend les armes et les balles partout.
Ici, au Kenya, est-ce que vous avez pu vous recréer une vie ?
J'aimerais bien. Là, je travaille comme serveur. Avant, je rêvais d'être footballeur. Aujourd'hui, je veux juste continuer à travailler pour envoyer de l'argent à ma famille.
Ousmane aussi a quitté Khartoum en 2023. Il y suivait alors des études en génie civil. Diplômé ici à Nairobi, c'est vers le Soudan que ses projets se tournent.
Je ne peux pas imaginer mon futur sans le Soudan. Maintenant que l'armée a récupéré Khartoum, mes amis et des membres de ma famille y retournent. Ils essaient de reconstruire. J'y retournerai, c'est sûr.
Vous avez eu une révolution, tout ça pour ça ?
Les deux généraux viennent du même gouvernement, mais vous pouvez vivre avec l'armée. Avec les RSF, c'est impossible. Je le sais, je les ai vus, ils ont essayé de me tuer. D'abord la paix, après on cherchera la démocratie.
En 2024, les Nations Unies recensaient plus de 11 500 réfugiés soudanais au Kenya. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Et c'est la fin de cette édition d'Afrique Midi. Michael Goncalves à la réalisation, Pierre Vallée à la fabrication du journal, Laurent Chaffard à la rédaction en chef. Tout de suite, c'est RFI Midi avec Clotilde Dumay.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
la leptospirose, une maladie bactérienne transmise par les rats.
Jeudi,
allergie, une part croissante de la population mondiale est concernée.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Salut, c'est Assalfo. Et revoilà le FEMIA. La 17e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo vous attend du 15 au 20 avril prochain à Abidjan et Daloa sous le thème civisme et sécurité routière. Cette année, vous aurez Angélique Kidjo, Caris, Smarty, Takana Zion, José, Imra et plein d'autres artistes pour mettre l'ambiance. Le FEMIA, c'est aussi le volet social avec l'inauguration des écoles primaires Magic System de Badika, Jacquesville et San Pedro.
En partenariat avec RFI. Anoumambo
est béni. C'est ça qui est la vérité.
Ce mardi sur RFI.
Pourquoi une philosophie du végétal ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Et si nous revenions aux racines de notre humanité, façonnée et toujours fascinée par le végétal, les plantes, les arbres et les fleurs, la philosophe Seloualoust Boulbina nous invite à nous relier à ce lien essentiel, existentiel, à tout ce qui sort de terre.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.